Et on retrouve tout de suite Mélève et Malka, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bernard Aboif au micro, on se retrouve comme chaque samedi soir pour Mélève et Malka, une grande émission de Torah et de pensée juive, et nous sommes en ligne avec Raveli Lemel. Bonsoir Raveli Lemel, Shavuot Tov.
Bonsoir et Shavuot Tov.
Vous savez qu'on a plein de choses à se souhaiter ce soir. Hein,
ouais.
Shavuot Tov, Chag Sameach, Chodesh Tov.
Voilà, que des bonnes choses, sympathiques.
que des brachot, que des bénédictions. Alors, on continue avec vous à survoler notre parachat de la semaine. Et donc, on est arrivé à un nouveau texte, un nouveau chapitre, qui s'appelle Vaïgash. Et alors, Vaïgash, il est extraordinaire parce que il y a quoi? Il y a deux lignes précédentes. Tout va bien, on va s'arranger, on va faire en sorte de trouver une solution entre Yosef et ses frères. Et là, tout d'un coup, Yehuda, il n'est plus d'accord du tout. Il pique une colère noire. Certains commentateurs pensent qu'il a crié tellement fort que toute l'Égypte a entendu. C'est un truc de fou. Tu ne toucheras pas à mon petit frère Benjamin. Et c'est très interpellant, évidemment, d'ailleurs, comme tout ce qui est écrit dans la Torah. Mais qu'est-ce que vous tirez de ce passage?
C'est vrai qu'on est ici dans un passage qui est très intéressant parce que Yehuda vient et prend un risque énorme, d'accord. Il est devant quand même le vice-roi d'Égypte, il ne sait pas que c'est son frère. Et puis il y a une forme ici de plaidoyer vis-à-vis de son frère, mais qui va très loin. Puisque Yehuda dit, eh bien, non, Binyamin y rentre, c'est pas négociable, il repart chez son père, et puis s'il y en a un qui doit rester, ben c'est moi. Voilà, c'est comme ça, c'est pas négociable, quoi, c'est pas possible. On ne peut même pas imaginer que ça fonctionne autrement. Et au fond, ce qui est intéressant ici, c'est de mettre ça en face de quelqu'un qui s'appelle Reuven. Reuven, rappelons-nous, c'est l'aîné. Reuven, c'est l'aîné des enfants de Jacob, c'est celui que l'on désigne comme étant le symbole du vrai aîné, puisque il y a eu d'autres aînés, n'est-ce pas, chez Abraham et Yitzhak, mais ce n'était pas vraiment ça. Chez Abraham, c'est Ismaël, chez Yitzhak, c'est Esav. Donc là, on a l'aîné vraiment par excellence, Reuven. Et rappelons-nous qu'en effet, Reuven a joué un rôle. Mais ce qui est très curieux, c'est que il y a comme une forme de rupture, comme une forme de symphonie inachevée, on dirait. En effet, rappelons-nous, lorsque les frères voient arriver Yosef, rappelons-nous, donc il y a cet antagonisme, et ils décident qu'ils doivent le condamner à mort, et « Vaishma Reuven vayatsile umiyadam vayomer lo nakenu nafesh ». Reuven entend et dit « Non, c'est pas possible, il le sauve ». Il dit « Hors de question, on ne le tue pas ». C'est extraordinaire, il prend son rôle d'aîné à cœur, et il dit « c'est pas possible, on ne peut pas faire une chose pareille ». Et le texte nous dit « Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Afin de le ramener chez son père ». Donc c'est extraordinaire. Et puis qu'est-ce qu'il dit ? Eh bien il dit « Bon ben, on va le mettre maintenant dans le puits ». Et on le met dans le puits. Alors nous, on pourrait s'attendre à ce que Reuven, bon ben on le met dans le puits, et puis je reste, et puis après je me débrouille, quoi. Et pas du tout, Reuven repart. Il y a une discussion dans les Mefarshim, dans les commentateurs, pour savoir pourquoi il repart. Certains disent parce qu'il est occupé à sa démarche de tshuva, de remise en cause, de regret par rapport à une action qu'il a pu faire lorsqu'en effet il avait déplacé le lit de la servante de sa mère. Il veut récupérer ici Yaakov vers Léa. Pourquoi ? Parce qu'il se dit Yaakov va rester chez la servante de Rachel. Et ça, c'est pas possible. Bilbel Yotsou à vivre. Alors, c'est un sujet en tant que tel, mais en tout cas, il le regrette. Ou alors certains disent, eh bien, c'est le moment dans lequel il doit venir servir son père, Yaakov. Le problème, c'est que quand il rentre, il dit, waouh, Hayeled, Enenu, Va'ana, Aniba. Il constate qu'entre-temps, les frères ont pris Yosef, l'ont vendu, et puis lui, il arrive et il découvre ça, il en est bouleversé. Il y a quelque chose quand même de très très curieux chez Reuven. Reuven, tu as commencé quelque chose. Tu as commencé quelque chose, tu t'es opposé aux frères, et c'est pas banal. Parce que les frères, c'est pas n'importe qui. Et puis parmi les frères, il y a Shimon et Lévi, donc il y a quelque chose de très puissant. Mais Reuven ne va pas jusqu'au bout. Reuven s'arrête, comme si au fond, Reuven doutait de la possibilité qu'il a de pouvoir faire aboutir cette histoire. Comme si au fond, il se disait, bon, je vais le sauver maintenant, mais après, bon, ben, on va voir. On va voir et il ne va pas jusqu'au bout. Et là, on a en face de lui quelqu'un de totalement différent. On a en face de lui quelqu'un qui s'appelle Yehuda. Yehuda, d'ailleurs, ça va être la malroute, ça va être la royauté. Alors évidemment, Reuven reste Reuven, une des 12 tribus d'Israël. Et la Torah est en train de nous dire, oui, mais il y a quelqu'un qui nous apprend au fond comment on fonctionne. C'est qui, c'est Yehuda? Yehuda, lui, est dans la posture de celui qui dit, eh bien non. Dans la mesure où je considère que Binyamin doit rentrer chez son père, eh bien il n'y a rien qui va s'opposer à ma volonté, strictement rien. Il n'envisage même pas une autre possibilité que celle-là. Pour lui, c'est inimaginable. Au fond, Yehuda, c'est un petit peu le symbole de celui qui, face à une situation, comprend que s'il est face à cette situation, eh bien, il n'a pas le choix. Il est obligé de faire tout ce qu'il faut pour que ça réussisse. Au fond, il ne s'enferme pas, il ne s'empêche pas d'aller jusqu'au bout. Et en effet, c'est ça la malroute, c'est ça qui va être la notion de royauté. Cette idée-là, au fond, si on réfléchit, c'est un petit peu la conséquence d'une notion que lui-même Yosef avait introduite au tout début de l'histoire qui va le propulser vice-roi d'Égypte et va l'amener à maintenant être dans la délivrance et tout le processus par la suite. Ne l'oublions pas, de la descente en Égypte, de la sortie d'Égypte commence de là. C'est quoi cette idée-là? Je la traduirais comme étant la notion de « irpatiut », c'est-à-dire de se sentir concerné par les autres. Comment ça? Regardez. Yosef, il était vendu. Il se retrouve avec l'histoire de la femme de Potiphar. Yosef résiste. Yosef est en prison. Lorsqu'il est en prison, le responsable de la prison réalise qu'il a face à lui quelqu'un d'extrêmement doué et donc il lui donne des responsabilités. Et puis un beau matin, Yosef, il se lève et voit deux co-détenus. Il se tourne vers eux et il leur dit « Madou apenechem raim ayom ». C'était dans la fin de la parasha de Vayeshev. Vous vous rappelez, il leur dit « Mais vous n'avez pas l'air bien, qu'est-ce qui se passe ? Attendez, vous êtes dans une prison. C'est un peu normal que d'abord les gens n'aient pas tous les jours le sourire aux lèvres, mais Yosef non seulement fait le constat, mais se tourne vers eux et leur dit « Vous n'allez pas bien ». Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et à partir de là, ils commencent à lui raconter leurs rêves, Yosef va les interpréter et on connaît la suite. C'est très intéressant cette idée-là, c'est-à-dire que la notion de irpatiut, la notion de se sentir concerné par l'autre, qui met en place un processus. De manière beaucoup plus puissante, c'est la même chose que ce que Yehuda va faire. Yehuda, eh bien, à cette notion de irpatiut, je me sens concerné. Pourtant, rappelons-nous, Binyamin, a priori, semble être responsable de ce qui lui arrive. Pourquoi? Bien parce que Binyamin, au fond, il semble avoir volé ce fameux gobelet en argent qui appartient au vice-roi d'Égypte, qui n'est autre que Yosef. Tous les indices sont contre lui. Et d'ailleurs, les frères sont là en train de se dire, quoi, au fond, il nous refait le coup, quoi. C'est pas possible. Yehuda, il dit non, c'est pas mon problème. Moi, j'ai pris un engagement et moi, je le tiens et je vais jusqu'au bout. Vous savez que souvent, dans la vie, on a malheureusement cette mauvaise habitude de voir dans la difficulté un élément qui nous permettra de justifier l'absence d'effort de notre part. C'est-à-dire, on est prêt à le faire, mais bon, quand même, là, faut pas exagérer, quoi. Dans une histoire pareille, bon, ben, tant pis, quoi. Vous savez, un petit peu, ces gens qui disent, ben, tant pis pour toi, tant pis pour toi, il ne fallait pas commencer. Et puis maintenant, ben, qu'est-ce qu'on fasse? Yehuda, il n'est pas comme ça. Yehuda dit, moi, je suis face à une situation. Cette situation exige de ma part une réponse. Cette réponse, c'est la suivante. Binyamin doit rentrer. Il rentrera coûte que coûte. Je resterai moi en prison. On se débrouillera, on fera ce que vous voulez. Mais ça, ça ne bouge pas. Et je crois que on a ici donc une leçon au fond fondamentale qui est tellement importante. Celle d'abord d'aller jusqu'au bout de ce que l'on fait. Souvent, vous savez, les gens commencent à agir et puis après, bon ben ça y est, on a déjà fait, c'est bon. Non, il faut aller jusqu'au bout. C'est cette notion-là de Gibor Kari puissant comme le hari, comme le lion dont la Mishnah nous parle. Cette notion de constance, mais non pas juste de constance dans un travail qu'on a décidé de prendre sur soi, mais de constance dans l'effort pour pouvoir aboutir à un résultat final. C'est ça la malchoute, c'est ça la royauté d'Israël. Et dans nos époques où souvent on a tendance à baisser les bras, où l'on voit dans la difficulté un élément qui va justifier un arrêt de nos mouvements, Yehuda nous apprend exactement le contraire. Mais pourquoi ? Parce qu'au fond, tout ça, ça démarre de Yosef, parce qu'il a face à lui, il ne le sait pas encore, celui qui symbolise cette notion. Yosef qui, parce qu'il est face à une situation, se sent concerné par cette situation. Si je la vois, c'est qu'elle a quelque chose à me dire. C'est un enseignement d'ailleurs connu du Baal Shem Tov qui dit que dès lors qu'on est face à une situation, elle a une double fonction par rapport à nous. La première, c'est de nous amener à réfléchir et d'en prendre un enseignement, c'est sûr. Mais surtout, qu'est-ce que la situation attend de nous ? Traduit de manière différente, vous savez, beaucoup de personnes disent « qu'est-ce qu'ils attendent de la vie ?» Alors que dans le peuple juif, on se dit « mais qu'est-ce que la vie attend de moi ? Qu'est-ce que cette situation attend de moi ? Qu'est-ce qu'elle est censée générer chez moi comme mouvement ?» Et à partir du moment où elle met en place un mouvement, eh bien, je vais jusqu'au bout. Reuven commence et c'est extraordinaire. Mais peut-être qu'il n'avait pas suffisamment, si je peux m'exprimer ainsi, par rapport au Shvatim. Est-ce qu'au fond, la Torah n'est pas en train de nous dire qu'il y avait ici peut-être une forme de manque ? Pas assez confiance dans la possibilité qu'il aurait de faire aboutir les choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne décrit pas ici le personnage de Reuven, mais bien plus l'enseignement que nous devons en tirer. Alors, ayons confiance dans la capacité que nous avons, chacune et chacun d'entre nous, de faire aboutir les choses. Voyons dans les situations une forme d'appel qui nous est proposée. Sentons-nous concernés par les choses et après, allons jusqu'au bout. Comme la Mishnah nous le dit, « Lo alecham lechaligmo » On ne t'a pas demandé de tout finir. « Viyata ben chori ni batamimenu » Mais tu n'es pas libre de dire « Bon, bien, je m'arrête. On va jusqu'au bout. » Et puis après, l'histoire ne nous appartient plus. Elle appartient au créateur de l'univers. Comme dans Yehuda, je me bats jusqu'au bout. Et après, Akadosh Baruch Hu interviendra. C'est ce qui se passe. Et c'est ce qui, au fond, ouvre véritablement au sauvetage et à la libération qu'on espère finale du clan d'Israël.
En vous écoutant, je me disais, il y a aussi une expression qui est prendre ses responsabilités. Il prend ses responsabilités. Et, hein, c'est ça.
C'est ce qu'on dit aussi, Bimkom Shen Ish, Tishtadel Yot Ish, là où il n'y a pas de Ish. Alors Ish, on pense que ça veut dire un homme dans le sens masculin. Non, Ish, c'est lorsqu'il n'y a pas d'individu, alors décide de l'être toi. C'est-à-dire, ben, s'il n'y a personne, eh bien, ça veut dire qu'au fond, on attend de toi que tu assumes. Et non, si on attend de toi, ben, c'est que ça en a sans doute la possibilité.
Ah. Ravi Lidemel, je vous remercie. Bonsoir à vous. Et ça vous attend.
Bonsoir et Shavuot Tov.
Et nous sommes en ligne à présent à Jérusalem avec Rav Mordechai Bitton. Bonsoir Rav Mordechai. Shavuot Tov, Chag Sameach.
Shavuot Tov et encore Chag Sameach, Hanouka Sameach encore pour deux jours.
Bon Hachem. On peut encore se souhaiter plein de bonnes choses, on peut espérer plein de cadeaux à la maison, on a toute la raison du monde, on peut manger, on peut grossir, on a toutes les raisons.
Et Chodesh Tov, et Chodesh Tov, Chodesh Tov, on est Rosh Chodesh aussi, on est début du mois.
T'es bête. Rav Mordechai Bitton, nous en France on a vécu, vous êtes à Jérusalem, nous en France on a vécu la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde, moi je me suis dit, c'est français, il y a tous les ingrédients d'une aventure humaine dans cette finale. Je me doute bien qu'Arav, il ne regarde pas la télé pour voir un match, mais il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette révolte, de dire rien n'est figé, on n'est jamais battu. Jusqu'à la dernière minute d'un match, on peut encore gagner. On peut vaincre, pas seulement gagner, vaincre. On peut se révolter, on peut dire non, on peut être unis Il y a tout là-dedans, et on peut croire, et on peut se battre. Et vous allez me dire si c'est un peu osé. Mais Youssef Hatzadik aussi, il est comme ça. C'est jusqu'à la dernière minute, il est debout, il a vécu, je crois que c'est 22 ans, il n'a rien demandé à personne, il a été vendu, il est jeté en prison, il n'a jamais lâché. Et c'est, je ne sais pas si j'abuse, mais Youssef Hatzadik aussi, il a vécu les quelques choses, les quelques petits éléments que je suis en train de dire.
Alors, on va dire Léa Vdil, parce que bon, c'est un personnage qu'on appelle Tzadik Yesod Olam, qui est le juste, l'incarnation du juste parfait. L'équipe de France, c'est un peu autre chose. Mais par contre, oui, vous avez raison. Et dans une actualité, il y a toujours des éléments qui sont des éléments de moussard, de réflexion. Alors, j'ai pas vu le match, effectivement, j'en ai entendu parler, mais j'imagine bien qu'une équipe qui a été menée 2-0, qui a égalisé, puis qui a été jusqu'au pénalty, c'est une équipe qui, à un moment donné, a dû se révolter. Si elle était menée à 10 minutes de la fin d'un match et qu'elle l'est, c'est qu'elle a dû se révolter. Vous avez raison. Cela dit, allons sur Youssef Hatzadik et essayons de comprendre un petit peu, justement, un point qui est un point fondamental. Yaakov, son père, et Youssef, ce sont les deux figures des Juifs en exil. Yaakov, il est parti en exil chez son beau-frère Lavan pendant 22 ans, et là-bas, il a tenu, il a résisté, il est resté lui-même, c'est ce qu'il va dire à Esav quand il revient. Et Youssef Hatzadik, il s'est retrouvé en Égypte, et il est resté Youssef Hatzadik, Youssef le juste, il a résisté à toutes les tentatives de séduction, de destruction, d'annihilation, il est resté un Hatzadik. Mais quelle est la différence fondamentale entre Yaakov et Youssef? La différence fondamentale est la suivante. Yaakov, il est parti en exil, tandis que Youssef, il a été jeté en exil. Yaakov, il a choisi à un moment donné de partir en exil. Enfin, son père l'envoie chez Lavan, mais il part en exil. Et donc, il sait vers quoi il va. Il va même aller dans le Beit Hamidrash, donc le centre d'études de Hever, pour apprendre la Torah de la résistance à la civilisation de Lavan. Pendant 14 ans, il va rester là-bas. Il va étudier la Torah. Il va s'armer sur le plan spirituel pour résister à Lavan, qui est un homme rusé, un homme charmeur et en même temps un homme destructeur. Il va s'armer spirituellement, psychiquement, mentalement pour résister. Mais lui, Youssef, il a été jeté dans l'exil par ses frères. Et donc, il n'était pas du tout préparé. Il n'était pas du tout préparé à l'exil. En fait, son père lui avait enseigné la Torah de l'exil parce qu'il lui a enseigné la Torah qu'il avait appris chez Shem et Ever. C'est qu'il lui a appris à être un juif en exil. Mais il ne l'a pas préparé psychologiquement. Yaakov, lui, il est parti vers la vente, tandis que Youssef, lui, il a été vendu par ses frères et jeté. Et là, on trouve effectivement les ingrédients d'une aventure, qui est une aventure pas seulement de résistance, mais de résilience spirituelle. Et c'est la raison pour laquelle Youssef, c'est l'archétype du juif qui est jeté en exil et qui va malgré tout résister. Et ça, c'est un point qui est tout à fait fondamental. Il va résister d'abord sur le plan psychique et mental. D'accord ? Même en prison, il va rester un homme matzliar, un homme qui réussit, un homme qui est joyeux, un homme qui inspire la joie de vivre. Avant ça, quand il est chez Potiphar, il va réussir sur le plan de sa construction personnelle. La femme de Potiphar, elle lui a proposé finalement de faire un enfant. Elle lui a dit, voilà, dans les astres, j'ai vu qu'on aurait des enfants ensemble. Les commentateurs nous expliquent qu'en vérité, c'était la femme, future femme de Youssef, qui était la fille donc, de Dina, qui avait été violée à Shrem, qui s'était retrouvée chez eux. Et c'était cette fille-là qui devait se marier avec Youssef et qui devait avoir des enfants, donc Menaché et Gershon, donc les deux enfants de Youssef, Menaché et Ephraim. Mais ce qui est intéressant, c'est que Youssef, lui, il va dire à cette femme non, parce que moi j'ai une éducation, j'ai un père, j'ai une destinée, j'appartiens au peuple juif et j'ai un rôle dans le peuple juif. Et là on touche à un point qui est un point fondamental. Et là aussi, peut-être, on peut établir un point. Finalement, les gens qui résistent, c'est des gens qui ont une éducation à la résistance. C'est-à-dire que c'est des gens auxquels on dit, voilà, vous allez jouer le match de votre vie, vous allez devoir marquer des buts, mais ils sont préparés psychologiquement à ça. Le juif, qui est jeté dans l'exil, Youssef, Yaakov, c'est des gens qui sont préparés à ça. Vous devez atteindre le but de votre existence. Le but de votre existence, c'est d'être proche de Dieu dans toutes les circonstances. Que vous soyez dans votre zone de confort, donc chez Yaakov, au milieu donc, d'une famille sainte, ou alors jeté en Égypte dans un pays impur, vous devez rester pur et vous devez rester vous-même. Mais il y a une éducation, et c'est cette éducation qui fait toute la différence. Dans la parachète Vaïgash, la parachète de la rencontre entre Youssef et ses frères, on voit que finalement, ce qui va l'emporter, Ce qui va l'emporter à la fin, ce qui va faire finalement que les frères reviennent, c'est finalement l'éducation qu'ils ont reçue, parce qu'ils ont reçu une éducation qui leur permet de comprendre que Dieu conduit leur histoire, et qu'il faut se plier au projet divin, et qu'il faut être capable d'aller avec le projet divin. Donc tous ces ingrédients, ben, c'est des ingrédients qui à la fois forgent des caractères, mais en même temps forgent une destinée, et ils sont le produit d'une éducation. Et l'éducation qui a été donnée à Yosef et qui a été donnée à Yaakov, et finalement l'éducation qu'on doit donner à nos enfants, c'est l'éducation finalement qui consiste à dire, quelles que soient les circonstances de ta vie, quels que soient finalement les soubresauts de ta vie, tu es juif. Tu es juif, tu resteras juif, tu dois rester juif, et tu dois défendre ton judaïsme et ta spiritualité. Quoi qu'il arrive, ne jamais céder aux tentations et ne pas avoir peur des tentatives de destruction. Parce que si tu te rattaches à la Torah, si tu te rattaches à ce qui est éternel, ben tu vivras. Regardez l'histoire de Hanouka, c'est la même chose. Toutes les tactiques militaires employées par Yehuda Maccabi, c'était des tactiques qui étaient vouées à l'échec du point de vue militaire. Et pourtant, par des miracles, qui sont des miracles visibles, comme le raconte le Midrash, les Hashmonaïm, les soldats asmonéens, ont vu les miracles. Ils ont vu les armées grecques se liquéfier devant eux contre toute attente. Et c'est la même chose, le combat de Hanouka, c'est le combat d'une poignée de gens qui ont décidé de résister sur le plan spirituel face à des armées comprenant plusieurs dizaines de milliers, voire plusieurs centaines de milliers de soldats, et qui incarnent une puissance, à la fois une puissance militaire, mais aussi une puissance intellectuelle et idéologique. Et là encore, c'est cet esprit de résistance qu'on retrouve, et qui est l'esprit de Hanouka. Alors c'est peut-être ça qu'il faut emmener maintenant, là, ce Motsaï Shabbat, et on va quitter Hanouka et rentrer dans l'hiver. Et finalement, c'est cet esprit-là, cette idée de se dire que le juif, il a des racines qui sont dans la Torah et qui lui permettent en toutes circonstances d'affirmer sa spiritualité, d'affirmer son identité. Voilà, à toutes et à tous, c'est Chodeshov Borah, Chanukah Sameach et Shavuatov.
Rav Mordechai Biton, je vous remercie. Merci pour cette jolie lumière que vous avez éclairée chez nous avec ce cours. Et je vous souhaite toutes les mêmes choses. Shavuatov, Chag Sameach, Chodesh Tov, on se retrouve la semaine prochaine évidemment. Bonsoir à vous à Jérusalem, Rav Mordechai Biton.
Shalom, shalom.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Gué. Bonsoir Rav Gué, Shavua Tov et Chag Sameach.
Shavua Tov, Chag Sameach et Rosh Chodesh
Mevorach. Et Rosh Chodesh Mevorach, absolument. Rav Gué, vous voulez-vous un petit peu revenir sur Hanouka? Alors déjà dans le judaïsme, oui, bien sûr, on l'a fait la semaine passée, et là, un petit mot encore pour ces derniers jours de fête, si je ne me trompe pas. Et vous voulez faire un parallèle? Alors d'abord déjà, il n'y a pas énormément de fêtes qui durent 8 jours. Et vous voudriez essayer de voir un peu ce que disent nos Chachamim dans un parallèle entre Hanouka et Sukkot.
Tout à fait. En fait, il n'y a que deux fêtes qui durent 8 jours. C'est Sukkot, avec ce qu'on appelle Shmini Atzeret, la dernière fête de Sukkot, donc c'était 8 jours. Et Hanouka qui dure également 8 jours. Et ce qui est intéressant, c'est que l'une suit l'autre. Hanouka suit Sukkot. Après, évidemment, quelques semaines d'intervalle. Mais il est intéressant de remarquer que dans la Torah, il y a une allusion à Hanouka juste après Sukkot. On a la paracha de Emor, qui est une paracha qui énumère toutes les fêtes. Et juste après avoir parlé de Sukkot et de Shmini Atzeret, la Torah parle de l'huile, de l'allumage de la menorah, alors que ce n'est pas du tout l'endroit pour parler du travail au Beit HaMikdash, ce n'est pas du tout le sujet de la paracha. Et juste après Sukkot, on parle d'apôtre, c'est une allusion, nous dit nos sages, qu'après Sukkot, il y aura Hanouka, donc cette huile, cet allumage. Alors, pourquoi 8 jours? On sait tous que 8 est un chiffre qui représente le monde d'après, puisque 7 jours, évidemment, c'est le monde qu'on appelle Olam Hazé, selon Pi, et le 8e millénaire, 8e jour, c'est au-delà, et donc c'est une dimension surnaturelle. Et ce que je voudrais ici retenir, c'est autre chose. Le lien entre Sukkot et Hanouka, je voudrais l'aborder sous un autre angle. À Sukkot, on marque évidemment les nuées. On rappelle les nuées, c'est la notion de la Sukkah, rappeler comment Hachem nous a accompagnés avec des nuées protectrices qu'on appelle Anané Hakavod. En fait, il n'y avait pas seulement cela comme miracle dans le désert. Il y avait le miracle du puits de Myriam et le miracle de la manne. Et pourtant, on va retenir celui-là plus que les autres. Pourquoi ne pas marquer également ce miracle-là, qui est celui de la manne et du puits de Myriam? La réponse, c'est que justement les nuées, qu'on appelle les Ananea Kavod, n'étaient pas absolument indispensables. La preuve, c'est qu'à un moment, elles sont parties, elles nous ont quittées, puis après on les a retrouvées, parce qu'après la faute du Vaudor, d'après certains, elles nous ont quittées. Lorsque Aaron est mort, Niftar, donc elles ont parti, elles ont disparu, puis après elles sont revenues. Donc il y a une possibilité de vivre dans le désert sans les Ananea Kavod. Donc pourquoi Hachem les a donnés? Pour nous faire Kavod, pour nous faire plaisir, pour nous donner un certain confort, un bien-être, qui n'était pas indispensable. Une preuve, s'il en était nécessaire d'en rapporter une autre, mais une preuve de l'amour, de l'amitié, du lien très fort qui nous unit à Hachem, qui ne nous donne pas le strict nécessaire comme l'eau et la nourriture, mais il nous donne aussi l'air conditionné, entre guillemets, qui est Ananea à Kavod. Vous savez que les nuées faisaient en sorte qu'il y ait une température agréable, supportable, dans un désert, c'est pas évident, et qui, elle, aplanissait le sol pour que les Juifs n'aient pas à monter, descendre des dunes. Bon, déjà, on sait que c'est pas des endroits où il y a des montagnes très hautes, mais simplement pour nous rendre la marche plus facile. Donc, on est en train de parler d'un confort. Donc, Dieu, ici, montre son amour pour le peuple juif. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à Hanouka, le miracle de la fiole d'huile était aussi un miracle, entre guillemets, inutile, si je peux me dire comme ça. Pourquoi inutile? Parce que, comme le rappelle le Pnei Yehoshua, Pnei Yehoshua, c'est un grand commentateur, ceux qui étudient la Gemara connaissent très bien, il avait vécu il y a 300 ans, ce rave dit, mais c'était pas nécessaire de faire un miracle. Il suffisait d'utiliser de l'huile impure. Pourquoi on pourrait utiliser de l'huile impure? S'il n'y a pas d'huile pure, on a dans ce principe de Touma ou Trabetzibo, c'est-à-dire que l'impureté a été permise lorsqu'il s'agit de la communauté. Il n'y a pas d'autre solution, on peut utiliser de l'huile impure. Donc ce n'est pas nécessaire de faire un miracle avec de l'huile pure, la fameuse huile trouvée dans la fiole d'huile du Kohen Gadol. Donc Hachem, là, il veut montrer son amour pour nous. Il nous dit, effectivement, on aurait pu utiliser de l'huile impure, mais vous avez voulu faire les choses de la façon la plus extraordinaire. Vous avez fait un acte de Messirut Nefesh, un don de vous-même. Vous avez risqué votre vie pour libérer les Juifs de cette impureté des Grecs. Eh bien, moi, je vous montre mon amour. Et donc, il nous a donné, gratifié d'un miracle qui n'était pas indispensable pour le fonctionnement du Beth Amikdash. Donc, encore une fois, le même principe qu'on appelle Chiba, l'amour. Hachem n'est pas simplement avec son peuple dans une relation de roi et de sujet avec des règles et des lois à respecter. Il nous montre son amour. Et c'est pour cela qu'à Hanouka, particulièrement, on fait des choses qu'on appelle la mehadrin. On est mehader, c'est-à-dire on en rajoute. D'après la halakha, il suffirait d'une bougie par famille, par maison. Et qu'est-ce qu'on fait? On en fait 8, enfin, aujourd'hui ça sera 7. Demain, ce sera 8, mais on est en train de rajouter en fonction du nombre des jours. Pour ça, ce n'est pas un nécessaire, absolument indispensable. C'est ce qu'on appelle « mehadrin mina mehadrin ». C'est une espèce dans laquelle on fait le hitour, c'est-à-dire qu'on essaie de rendre les choses plus belles, parce qu'on répond à cette parole d'Hachem, à Kadosh Baruch Hu qui nous dit « je vous aime ». Je vous aime, là, nous aussi, on dit « on t'aime », et on ne fait pas les choses au rabais, on ne fait pas le strict nécessaire, on rajoute encore et encore. On essaie de prendre de l'huile d'olive, si possible. On essaie voilà, que la lumière dure le plus longtemps. Bref, on essaie de faire les choses de la meilleure façon et tout simplement pour montrer à Hachem, voilà, répondre à Hachem. Hachem dit je vous aime. Et bien, nous aussi, on lui répond je vous aime. Effectivement, c'est sur ce dialogue-là que se fera la libération de la fin des temps, la chiffre 8. Il est intéressant de voir que c'est aussi le symbole de l'infini. C'est-à-dire que c'est un moment où nous aurons une relation avec Hachem qui sera éternelle, qui sera d'un niveau beaucoup, beaucoup plus élevé que nous l'avons aujourd'hui, sans aucune commune usure, et dans laquelle la relation sera effectivement une relation d'amour, fusionnelle, tout en restant nous-mêmes, effectivement, avec notre personnalité, mais nous aurons la possibilité de profiter, de bénéficier, ce qu'on appelle de la splendeur divine, à la fin des temps, à l'époque de l'Olam Haba. Alors, ce que j'appelle aujourd'hui, c'est que toute la communauté comprenne que le huitième jour, c'est un jour très spécial, qu'on appelle Zot Hanouka, parce qu'on va dire une chapitre qui commence par Zot. Et c'est une façon de dire que ce jour-là, en Israël et dans tous les pays du monde, on fait des prières spéciales, parce que le huitième jour de Hanouka, justement, lorsqu'on passe du 7 au 8, on passe à un niveau tout à fait différent. Et donc, c'est un moment de prière, de supplication pour que Hachem, effectivement, fasse en sorte que cet exil se termine très rapidement et qu'on entende d'excellentes nouvelles en ce huitième jour de Hanouka, Zot Hanouka, Voilà un peu le message que je voudrais transmettre. Hachem fasse que nos tfilotes, nos prières soient exaucées et entendues par Hachem très rapidement.
Et on va vous souhaiter plein de belles choses, Rav Gué, et on a l'occasion donc en plus de se souhaiter plein de bénédictions, donc Shavua Tov, Chodesh Tov et Chag Sameach.
Shavua Tov, Chodesh Tov et Chanukah Sameach.
Voilà, cette émission est à présent terminée. C'est à mon tour de vous dire Shavua Tov.